Podcast. Ludivine Sanchez, art thérapeute, postula au sociétariat de Canopée, décembre 2020. Fermez les yeux. Écoutez. Laissez-vous prendre par le son de la terre, de cette terre rouge de l'Algérie des années 50. Ce n'est pas le désert, non, les champs, les vignes sont bien présents. La terre ocre s'éparpille en dépôt sur des pieds joliment dorés d'une petite fille. Elle court et on peut voir ses mollets s'agiter sous les jupons propres. Dans le bas de son dos frappent en cadence deux jolies longues nattes rousses. La fille se couche dans un terrain herbeux et plonge son regard de hibou dans ceux d'une grosse tortue de terre comme il y en a tant dans ce pays. Cette petite fille qui vit dans une modeste ferme d'Algérie à Fleurus, chez ses grands-parents avec son grand frère, c'est ma mère. Papy est employé viticole, la grand-mère s'occupe du lopin prêté pour la consommation familiale, et les deux enfants.
Les vignobles d'Algérie sont étagés dans la montagne où couronnent les coteaux de petites parcelles vertes. Il y a aussi les vignobles qui ont audacieusement gagné jusqu'au bord de la Méditerranée et enfin les grandes exploitations de plaine géométriquement tracées. Dans ce qui fut jadis un marécage déserté par les hommes.
La mère est concierge d'un immeuble cossu à Oran, avec sa fille aînée qui fait du ballet, et sa propre sœur encore adolescente. Le père est parti à la grossesse du dernier enfant, ma mère. Nourrisson, dans l'obscurité de la loge, les os de ma mère ne durcissaient pas et elle risquait des déformations. Il fallait aller au soleil et son frère, à la relation proche du jumélisme, ne voulait la quitter. Alors direction la campagne maternelle. Ma mère, ce qu'elle aime à cet instant-là, c'est l'odeur de savon des jupes de sa grand-mère, regarder vivre les insectes et se lever contre son frère le soir dans le lit pour se raconter des histoires au creux des oreilles avant de s'endormir. Il y a un garçon un peu plus âgé qui vit en France dans les montagnes des Pyrénées. Bien sûr, c'est de mon père que je vais vous parler. C'est ce jeune garçon qui aide son père à bricoler ou se défend des assauts toniques de ses deux grandes sœurs qui le pourchassent dans le jardin. Dans cette famille, on parle que le français, mal pour les parents et avec un mauvais accent. L'espagnol, on ne le parle plus, mais parfois fuse, s'échappe malencontreusement, encore des intonations catalanes quand on se sent joyeux ou trop en colère. L'Espagne, ils l'ont quitté à la naissance du petit dernier, mon père. Nourrisson, dans les bras de sa mère, ils ont fui vers la frontière. Plus que fuir, ils ont rejeté terre, famille et l'histoire avec un grand H. D'une famille aisée, ma grand-mère enfant connaissait les bonnes et la cuisinière, la facilité d'être une fille de gradée de la gendarmerie. Puis elle connut la dénonciation et la prison pour des faits qu'elle n'avait pas commis. Une de ses sœurs mourut dans les geôles franquistes de Barcelone. L'amour de ma grand-mère paternelle combattait avec la résistance. Usés et abusés par les promesses non tenues, les batailles perdues et les espoirs inassouvis, ils sont partis en ne se retournant jamais. On ne sera alors ni espagnol, ni catalan et pas non plus français. De patrie, on ne voulait plus. Apatride et vivre simplement où l'on n'avait plus posé ses bagages. Mon grand-père, qui ne parlait pas ma langue maternelle à son arrivée, lui qui nettoyait les fosses, construisait barrages et maisons, les mains calleuses et le sourire aux lèvres d'être toujours et encore vivant, cet homme finit sa vie à l'usine, tout en créant les grilles de mots croisés pour les journaux du coin. À 9 ans, ma mère, son frère Jean-Maurice et Juliette, la grand-mère, avaient laissé derrière eux le royaume modeste de terre chaude et odorante où le grand-père venait de prendre son dernier repos. Prendre un nouveau départ, c'était jouer dans les escaliers de l'immeuble, garder ses chaussures, briller ses yeux aux vitrines des magasins, observer des heures de doreur à la feuille dans l'atelier d'à côté. Odette, la mère de famille, cesse les ménages épuisants et travaille chez l'entreprise de parfumerie et de savon Guimard. Un beau monsieur un peu plus jeune qu'elle lui fait la cour depuis qu'il a aperçu cette méditerranéenne au charme sauvage et d'une classe folle nettoyer les escaliers de l'immeuble de son patron. Mais la politique s'en mêle, les esprits s'échauffent et les coups de feu et les attentats arrivent. La guerre d'Algérie poussa les populations à se réfugier sur les bateaux pour un ailleurs imprécis. Pour ma famille, ce fut la cale du dernier bateau pour la France, une valise et un matelas pour tout bagage, grâce à un ami du prétendant de ma grand-mère, qui accepta de tourner le regard quand ils montèrent à bord en cachette. Ils arrivèrent sur Tarbes pour poser femme et enfants chez un oncle militaire. Le prétendant d'origine italienne prend une chambre de bonne dans la même ville. Très bonne élève, ma mère connut l'internat en tant que pupille de l'État à 1,5 km de chez elle, de la 6e à la terminale. En uniforme bleu marine toute la semaine, montrée du doigt par les enseignants pour être ni vraiment française, le côté maternel était d'origine andalouse et le paternel était un alsacien encore sûrement trop allemand, fille de divorcée et surtout avec des cheveux de feu qui ne pouvaient sûrement pas être naturels, cette jeune fille sérieuse serrait les dents jusqu'au vendredi soir où elle rejoignit le minuscule appartement de la rue Lamartine avec sa valise. Elle arrivait avec un grand sourire, se réfugier dans les bras des siens et se préparait, quand arriva l'âge raisonnable pour sortir, de faire ce qu'elle aimait le plus au monde, danser. Habillée de tenue à la dernière mode cousue par sa mère, elle partait avec une bande d'amis de confiance pour le dancing du cadette ou les balles. Et sur la piste, se sentir libre, se laisser vivre, libérer son corps de l'uniforme, de sa condition de rapatriée, de fille de divorcée. Se laver la tête des traumatismes, ne plus entendre les balles et les râles et supplications d'hommes qu'on égorgeait contre la porte de la conciergerie et qu'il fallait repousser au petit matin dans la rue pour pouvoir sortir de l'immeuble. À 18 ans, toujours souriante quand elle danse, un jeune homme de 25 ans vient l'inviter à danser en faisant une pirouette avec un doigt. Elle accepte. Et les voilà tournant ensemble. Evelyne apprend à connaître ce garçon. Il est accompagné très souvent de ses sœurs, et Fernando est le blagueur de la bande, tout en étant très en retrait par moments. Il est sec, les traits fins, et il sent bon. Il travaille avec son père à l'usine, mais se rêve architecte. Il fait des rallyes de voitures. Mais ce que ma mère apprend surtout au contact de mon père, c'est un foyer heureux et une tolérance immense. Ils vivent chichement, mais heureux d'être ensemble. Ici, on ne revient pas sur l'avant. Les parents de Fernando sont prévenants, charmants, et par-dessus tout, c'est un couple amoureux. Quand les enfants sont au bal ou au dancing, les parents de mon père, eux, dansent aussi. Ils font la parade des amants. Ils glissent leurs pieds sur le sol sur un air de tango argentin. Ma mère, qui ne connaît que les couples des parents des autres, n'avait jamais vu cela. S'aimer autant. Vivre tout simplement le temps présent. Ne pas détourner le regard sur hier, ni trop en avant pour voir les enfants et leur amour grandir. On arrivera toujours à s'en sortir du moment que l'on a des mains pour travailler et un peu de pain pour se nourrir. Ils ont connu la faim, la vraie. Celle qui fait mal, celle qui fait qu'on ne regarde plus ce qui peut être mangeable ou pas, du moment que le ventre se tait un peu. Ils sont tellement différents ces deux-là, ma mère et mon père. L'une vient d'une famille où l'on fait revivre l'Éden perdu à tout bout de champ, se remémorant sans cesse les odeurs prenantes des fleurs de la nuit, les vents marins et l'insouciance d'une vie simple, où se mêlaient toutes les nationalités. Et l'autre famille qui effaçait tout passé, racines, famille, amis, traditions, pour ne se consacrer qu'à eux. En totale autarcie, se suffire à eux-mêmes. Ils ont ouvert grand une brèche dans leur forteresse pour accueillir ma mère et toute sa famille sans sourciller. Un coup de foudre mutuel entre deux clans. Mais était-ce si bon pour autant que de nier par le silence, le plus total, ce que l'on était, ce que l'on a vécu? Il faut comprendre que je ne pourrais même pas vous dire les prénoms de mes arrière-grands-parents paternels, ni même les noms de famille complets. On en était là. Depuis, j'ai un peu appris, mais j'ai dû patienter tant d'années pour avoir non pas une conversation, ni une réponse à une question, non, juste des mots qui s'échappent, qu'on a oublié avec l'âge de garder derrière la barrière du silence promis. Mon grand-père Geronimo, hélas, je ne l'ai jamais rencontré. Il est mort des années avant mon naissance. Son amoureuse, son amie, son amante voulaient tenir promesse et le suivre sur son lit, mais une petite fille vivait déjà dans la maison. Elle n'avait pas de père et elle aurait donc besoin de sa grand-mère. Pour le rejoindre, il faudra attendre encore un peu. Que leurs enfants créent leur propre famille, qu'ils soient bien, et attendre que son tour naturel soit arrivé.
It has been a million times that I've tried to explain to you, to show you that I feel something strong and special too. And if I'm alive today.